RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Oui, les GG en direct de, du stand de la région des Hauts-de-France, ici au Salon de l'Agriculture. Nous sommes au hall 7, au deuxième étage, à l'étage des régions, avec la région des Hauts-de-France qui nous accueille maintenant chaque année. On prend plaisir à être là. On sera là aujourd'hui, bien évidemment, avec Didier Giraud, avec Joël Dagosséry, avec Charles Consigny. Et je vous propose justement que l'on parle fromage et qu'on parle maroilles. Parce qu'au Salon de l'Agriculture, bien évidemment, on regarde les bêtes, ça c'est une certitude, il y a les concours, mais il y a les concours aussi des bons produits régionaux. Et alors là, on a la confrérie du maroilles qui est avec nous.
Et on a son grand maître, Michel Bride, qui est avec nous. Bonjour Michel.
Bonjour.
Et derrière vous, là, derrière nous, le maroilles, venez, approchez-vous. Oui, soyez pas timide.
Un peu, mon vœu.
À 10h du matin, il faut toujours commencer par un petit bout de maroilles. Joël,
allez.
Obligé, oui. Il faut faire honneur au maroilles. Didier, c'est pas un problème, il ne faut pas le,
c'est pas un
le pousser.
En plus, il
faut
le forcer.
Dans les soirées,
il est à peine fait.
Dans les soirées de jeunes chez Didier, les gens prennent du maroilles avant de sortir en boîte. Et c'est comme
c'est vrai
ça.
Que le maroilles, c'est vachement
cher. Parce qu'il y a certaines régions où c'est considéré comme attirant.
Alors, c'est quoi un bon maroilles, Michel?
C'est un peu le axe de la Haute-Saône.
Un bon maroilles, c'est déjà.
C'est
pas un beau maroilles.
Ouais, mais c'est bien, ouais. C'est
parce que joué, bien quand on a jugé un maroilles, on commence par juger sa forme, sa couleur. Sa forme doit être régulière. On commence par le regarder. Après, on regarde sa pâte, qui doit être en périphérie onctueuse et puis à l'intérieur un peu crayeuse, parce que l'affinage, je dirais, se fait vers le centre. Et après, on y goûte.
Et on y revient.
On y revient, bien entendu, on espère. Et puis on s'assure qu'il a son goût caractéristique et que.
Alors c'est quoi le goût caractéristique du maroilles?
Il est fort.
Ouais, bah oui.
Non. Jamais. Voyez. Finalement sur le salon là, c'est les contacts que l'on a avec les clients. Il sent fort, plus fort qu'il n'est fort.
Oui, c'est vrai.
Voilà. Là, vous parlez des gens du Nord?
Non.
Aussi.
Ah oui, d'accord.
Aussi. On n'enlève pas la croûte du maroilles.
Non, moi, en ce qui me concerne, je n'enlève pas la courte du maroilles. Et puis, vous pouvez le déguster, je dirais, à la fois sur le plateau, mais aussi en cuisine. Parce que, avec le maroilles, vous pouvez faire la flabiche, de très
tarte
bon plats cuisinés. Oui.
Il y a le grand concours agricole de fromage.
Oui.
Alors, comment on juge un bon fromage?
Il vient de le dire. les fromages, déjà.
Non, mais un bon maroilles, d'accord, mais un bon fromage. Parce que tous les produits qui nous sont proposés sont formidables.
Oui. Alors, justement, le maroilles est soumis à un cahier des charges avec un goût caractéristique, je dirais, du terroir. Et j'essaie de faire en sorte qu'on ne juge pas un bon fromage, mais un bon maroilles. Parce qu'il peut y avoir de très bons fromages qui ne correspondent pas tout à fait aux caractéristiques.
D'accord. Mais quels sont vos concurrents les plus redoutables? Aucun.
Bon, aujourd'hui, on n'a plus peur.
On n'a plus peur.
Non.
Le maroilles va gagner.
Et
le
maroilles. Oui, l'année dernière, il a été. Je dirais, il y avait eu vos collègues, je dirais, d'une autre chaîne qui avait lancé un plébiscite. Et c'est le maroilles qui est sorti premier.
Premier.
Très largement, oui.
Le fromage préféré des Français.
Oui.
Et le maroilles s'exporte?
Ah, c'est ce que j'avais demandé.
Oui.
Quels sont les pays friands de maroilles alors?
Bon, la Belgique. Un peu le Canada aussi.
Ah oui.
Oui.
Vous n'avez pas de problème avec Trump, le maroilles.
Le Mercosur.
Il sent arriver le maroilles.
Non, mais il va pas.
Au Brésil, ils ne sont pas encore très maroilles, mais ça va venir.
Il ne va pas jusqu'en Amérique du Sud. Mmh. Par contre, je peux vous dire qu'il s'exporte. On en mange, je dirais, très loin parce que j'en ai trouvé à Tahiti.
Ah oui, en Polynésie.
Oui.
Du maroilles à Tahiti.
Oui.
C'est-à-dire, il fait le voyage. Attention à la chaleur avec le maroilles.
Non, mais ça va très bien. ils en prennent soin tout. Et puis il arrive dans de bonnes conditions.
Après, il part tout seul en marchant, le maroilles.
Non.
Merci Michel Bride, vous nous avez régalé. Super bon maroilles. T'as goûté, Joël, quand même?
Elle a fait semblant de manger.
J'ai bien fini
ta chicorée déjà.
Regardez, trois cure-dents.
Didier, sur le maroilles.
Le plateau. Bien, mais moi, je suis toujours impressionné par le concours général. C'est d'abord une compétition interne. C'est qu'il faut avoir le meilleur maroilles. En dehors de comparer du maroilles et du camembert, c'est d'abord une compétition interne. Ah et, oui. Et chaque produit, on va chercher l'excellence dans son propre terroir. Quoi.
Ah bah tout à fait.
Quelqu'un qui a une médaille d'or en maroilles, il aura un avantage concurrentiel avec ses collègues qui fabriquent du maroilles pendant toute l'année. Quoi, hein.
Oui.
Je connais aussi combien les viticulteurs, une médaille d'or à Paris, c'est quelque chose qui leur amène des clients à la fois international mais aussi local.
Merci Michel Bride, d'être passé.
Bravo. Bon appétit.
Bonne chance au maroilles. Merci à la
Comté. Merci, croise les doigts pour le maroilles.
On peut construire des immeubles avec. Hein.
Michel Bride, grand maître de la confrérie de maroilles. Merci d'être venu.
La tour triangle à côté, toute une base.
Et en grande tenue d'apparat.
T'as vu, magnifique.
Avec la médaille, là, le maroilles. Messieurs, dames, merci d'être passé avec nous. On va maintenant parler politique des élections municipales. Ces élections approchent. Vous allez voter les 15 et 22 mars prochains. Justement, ces élections, où il y a un certain nombre de personnalités qui sont engagées. Mais au-delà de ça, si on regarde le scrutin plus généralement, est-ce que ces élections, c'est vraiment un enjeu local ou national? 32-16 pour en discuter avec les GG, avec les grandes gueules.
Il faut peut-être distinguer les grandes villes des autres, parce que dans les grandes villes, effectivement, il y a un enjeu national. Par exemple, à Nice, je prends Nice au hasard.
On y sera lundi prochain.
Mais si Éric Ciotti gagne contre Christian Estrosi, il y aura forcément derrière une interprétation politique nationale en disant que l'alliance entre Éric Ciotti et le RN, ça a fonctionné, ça lui a permis de remporter la ville. À Paris, on va bien sûr regarder de près ce qui va se passer. Est-ce que la gauche va perdre le pouvoir après l'avoir obtenu il y a 25 ans, ou au contraire, va réussir à maintenir ses forces. On assiste aussi, si on regarde les sondages, à un reflux du vote écolo, semble-t-il, dans les grandes villes, alors qu'il y avait une vague verte il y a 6 ans, en sortant du Covid, les gens avaient beaucoup voté écolo. Donc ça sera forcément les enjeux nationaux. Après, localement, tu votes pour ton maire parce que tu le connais, parce que c'est une personnalité. D'ailleurs, la plupart des maires, il faut le rappeler, sont sans étiquette politique. Hein. On dit divers gauche, divers droite, mais enfin, ils ne sont pas membres de parti. Et ce sont des personnalités qui se présentent, et après à chacun de se déterminer en fonction. Quand vous votez, vous votez pour envoyer un message politique ou votez tout simplement pour trouver le meilleur maire de votre ville?
C'est au 32-16 que vous venez en discuter avec les GIEC, avec les grandes gueules. Joël Dagosséry.
Moi, je vote local parce que j'ai déjà voté, par exemple, pour un maire d'une étiquette pour laquelle je n'aurais pas voté au national, par exemple. Ou même au régional, je me rappelle, j'ai voté, par exemple, pour Valérie Pécresse, alors que moi, je ne vote pas LR. Donc, tu vois, je regarde quand même l'enjeu localement. Et je pense que beaucoup font ça, parce que là, on a vu, par exemple, pour les maires écologistes, quand on parle de Grenoble ou de Lyon, quelque part, on a cette écho-là, on voit comment ça a transformé la ville. On a beaucoup d'auditeurs qui appellent de ces villes-là.
Et qui
expliquent exactement ce que ça crée dans leur quotidien, dans leur déplacement, etc. Donc, même si dans les grandes villes, il y a un enjeu quelque part un peu national, mais les effets ressentis sont très, très locaux. Donc, je crois que les gens, en réalité, vont quand même voter pour leur ville, pour ce que le maire propose.
Donc,
pour la
ville. Donc, il faudra faire attention, pas trop d'interprétations sur un vote national, alors qu'on sera à un an de la présidentielle.
Forcément, on va faire un rapprochement, et forcément, les politiques nationales, les personnages politiques nationales vont le faire. Ils vont récupérer telle ou telle ville
ça dira quelque chose.
Bah oui, complètement. Mais néanmoins, je pense que les gens pensent réellement à ce qui va être fait pour eux, ou ce qui n'a pas été fait ou mal fait sur la mandature précédente.
Didier,
écoute, moi, dans mon village, je connais bien les deux têtes de liste, puisqu'il y aura deux listes. Je suis incapable de dire qui est de droite, qui est de gauche.
Ah oui.
Quoi.
Voilà. Ils sont sans étiquette.
Ah oui, ils sont sans étiquette et ils sont au service de la commune. Alors ils sont pas d'accord, mais ils sont au service de la commune. Après voilà, enfin, faut monter dans des villes de 3 000-4 000 habitants pour arriver à trouver une couleur politique dans l'hyper rural. C'est d'abord des histoires de famille plus que des histoires de parti, quoi. Après derrière ça, ne sous-estimons pas l'incidence d'un vote communal, hein. Enfin, tu parlais du raz-de-marée vert au sortir du Covid. On peut reparler des conséquences quand même, quoi. Hein. Dans les villes de Lyon, Bordeaux, Marseille,
Grenoble, Strasbourg,
Grenoble, Besançon, Strasbourg,
Poitiers.
Les gens, ils ont quand même leur quotidien qui a changé. Ils ont quand même vu apparaître des doctrines un peu hurlu-berlu où on retire le sapin et on le remplace par un sapin en ferraille. Tu vois, il y a quand même des conséquences. Ouais. Et pas que ça quand même. Je sais pas, on verra.
Il y a moins de voitures.
On analysera
de...
ce qu'il y aura derrière. Je suis pas sûr que ces gens-là soient hyper bien réélus, même si tu nous expliques régulièrement, Olivier, que les gens de l'hypercentre, ils préfèrent aller en vélo qu'en bagnole. Je pense quand même que dans ces villes-là, ça a compliqué la vie des habitants. Et à un moment donné, quand les gens ils sont dans une doctrine telle qu'elle soit, ça a des conséquences sur la vie quotidienne de leurs concitoyens.
Charles.
Moi, je vois plusieurs enjeux dans ces municipales. D'abord, effectivement, je pense qu'il va y avoir un recul des écolos dans les grandes villes, puisqu'on a vu le désastre que c'était à Lyon, à Bordeaux, à Paris, à Grenoble. Je pense qu'il peut y avoir une alternance. À Paris, c'est quand même pas rien, parce que ça fait des années que la gauche tient la ville. Et
si, 25 ans.
Et si aucune figure n'a voulu y aller... Outre Rachida Dati,
qui est donnée gagnante dans le dernier sondage à IFOP. Voilà.
Ce qui d'ailleurs génère une espèce de fébrilité chez ses adversaires. J'ai vu qu'Emmanuel Grégoire essayait de la repeindre en homophobe, a annoncé le doublement des subventions aux associations LGBT, comme s'il y avait urgence à faire encore plus à donner encore plus d'argent pour les associations LGBT à Paris. Bref, il en fait des tonnes sur ce thème d'une manière qui me paraît quand même assez grossière. Donc je pense qu'il y a un enjeu comme ça, un enjeu d'alternance. Il y a un enjeu aussi dans les petites communes où il y a une pénurie de candidats. Ça, c'est un autre sujet, mais qui est très important.
Parfois,
c'est
qu'en fait, il y a qu'un seul candidat.
Les gens ne veulent plus se taper.
Que la parité obligatoire, ça fout un bordel aussi, dans les communes où il y a 9 conseillers.
C'était d'ailleurs une règle sans doute à supprimer, mais c'est intéressant, je trouve, et triste que qu'on manque de candidats. Ça me fait dire qu'il faut changer la manière dont on rémunère les maires, quelles sont leurs attributions. Parce que si vous n'avez pas de candidat dans une commune, elle finit par tomber dans une communauté de communes. Et dans ces cas-là, en fait, votre commune n'est plus gérée en réalité. Il y a une espèce de distance qui se fait.
Les administratifs qui gèrent ta commune.
Et ça devient beaucoup moins bien géré que si vous avez un maire sur place. Donc ça me paraît être un vrai enjeu aussi. Et puis, il y a quelques villes un peu décisives. D'abord les villes où le RN est susceptible de passer, notamment Marseille ou Nice,
mais avec Éric Ciotti.
Voilà. Et évidemment le Havre, où si Édouard Philippe est battu, évidemment
par le communiste, le candidat communiste,
ça rebat les cartes de la présidentielle. Donc je trouve que c'est des élections assez intéressantes, même si le nœud de la chose, ça me semble être le délire gauchiste et écolo dans les grandes villes et la pénurie de candidats dans les petits villages. C'est pour moi les deux grands sujets de ces municipales.
Vous croyez que les gens vont voter? La participation va sera là?
Ah oui, quand même.
On n'en a pas beaucoup parlé jusqu'à présent des municipales.
Oui. Oh, je pense que ça va voter. On n'a pas beaucoup d'élections en France, hein. Mais non, mais c'est vrai.
On vote quand même tous les deux ans.
Mais oui, mais on vote beaucoup moins qu'en Suisse ou qu'ailleurs. Des élections qui ont un vrai impact. Parce que les régionales, les européennes, c'est un peu des élections sans impact.
Mais là, on a quand même voté.
Quelles élections ont un impact? C'est les législatives. Avec l'élection présidentielle et les municipales. Oui. En gros, c'est les deux élections qui ont de l'impact. Donc moi, je pense que les gens vont voter. À Paris, par exemple, on a bien vu l'impact que peut avoir le pouvoir incroyable qu'a une municipalité sur son territoire. Donc oui, moi, je pense que les gens vont voter. Je parie plutôt sur une participation élevée.
Après, il faut dire que l'actualité nationale ne laisse pas beaucoup de place à l'actualité locale. Voilà, il faut vraiment le vouloir, être soi-même, avoir une sorte de prendre des initiatives pour pouvoir s'intéresser au programme. Ce qui va se faire localement. Donc, c'est ça aussi, c'est que le pays est tellement excité qu'on a du mal à s'intéresser à ce qui se fait localement. Mais il y a une part d'affect quand même dans les municipales. Moi, par exemple, j'ai grandi à Saint-Ouen. Je vote plus là-bas, mais si je devais voter, je voterais pour Karim Wamran parce que c'est un enfant de Saint-Ouen. Enfin, il y a des choses comme ça qui se font où on se dit, ah ben oui, c'est l'enfant du pays, il a grandi là, il nous connaît, etc. Donc, il y a une part de rationnel et un peu d'irrationnel. Donc, c'est ce qui rend aussi, la beauté des municipales.
Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est comment certains s'éloignent de leur étiquette politique en se disant, en fonction du climat, ah bah tiens, là, je vais pas le mettre sur l'affiche.
Par exemple, la tête de Macron, on la verra assez peu sur une affiche.
Ah oui, là, en ce moment, elle est un peu plus embêtée. Il y a des têtes qui sont un peu plus porteuses que d'autres en ce moment. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé autour de la mort de Quentin, on le voit aujourd'hui, l'impact que ça a dans la bagarre pour les élections municipales, puisque le Rassemblement National et la France Insoumise vont ensuite montrer combien de mairies ils ont conquis. D'ailleurs, c'est marrant parce que le RN devient le parti, hormis quelques grandes villes, mais le parti de la campagne, et la France Insoumise, c'est le parti de la banlieue, quoi.
Je pense que il y a des élections où le référendum anti-Macron c'est plus exprimé que ça sera le cas au municipal.
Oui, bien sûr. Là, c'est démonétisé. En plus, après, ça ne se représente pas.
Tu parlais des insoumis. Ce qui est intéressant de constater, les insoumis sont en train de devenir ce qu'était le Front National à l'époque. C'est-à-dire, ça va être la question entre les deux tours. Est-ce que oui ou non, les insoumis vont se maintenir quand ils pourront se qualifier pour le deuxième tour, quitte à empêcher les socialistes de l'emporter, ou au contraire, il y aura des alliances. Mais s'il y a des alliances, après ce qui s'est passé avec la mort de Quentin, ça va être montré du doigt. Donc on est en train de vivre, moi ça m'amuse parce que on est en train de vivre ce qu'on a vécu des années de débats politiques avec le Front National et la droite. On demandait à la droite surtout de pas s'allier avec le Front National. Pactiser. Et là on va demander au PS, aux écolos, de surtout pas pactiser avec LFI. Mais s'ils le font pas, par exemple à Paris ou dans d'autres villes, à Marseille par exemple, ça peut les empêcher.
Ouais. On va continuer d'en discuter dans un instant. On sera du côté du Rhône avec notre ami Nicolas Sapin. Pompiers. Je rappelle que les Grandes Gueules demain seront à Lyon. Il ne faut pas oublier notre rendez-vous demain.
Là, c'est intéressant à Lyon. Hein.
On sera
Nicolas qui est en train
à Lyon, au Palais de la Bourse, 20 rue de la Bourse. Mais ça, c'est le rendez-vous de demain. Donc, justement, on parlera de l'élection lyonnaise. Mais ces élections municipales, enjeu national, enjeu local, vous votez pour une étiquette, vous votez pour un homme ou pour une femme, pour ce qu'il fait pour votre coin de rue. C'est au 32-16 qu'on en parle. Premier tour des élections municipales. Maintenant, c'est le 15 mars prochain. À tout de suite avec les GG en direct de la région des Hauts-de-France, ici au Salon de l'Agriculture. Restez avec nous, il est 10h20.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
GG les Grandes Gueules en direct du stand des Hauts-de-France ici au Salon de l'Agriculture avec les frites qui se préparent là ici dans ce hall 7, la grande friterie des Hauts-de-France là qui a fait venir des tonnes et des tonnes de pommes de terre et qui prépare les frites. Là on a nos amis à la caméra là qui sont en train de montrer toute la préparation. Quant à nous ici avec Joël Dagosséry, avec Didier Giraud et avec Charles Consigny, après avoir dégusté du maroilles, on a surtout le défi de Charles qui se prépare. Parce que tout à l'heure, Charles, il avait oublié, mais tout à l'heure, Charles, il sera à cheval sur un boulonnais. C'est une race de trait de la région des Hauts-de-France. Et dans 20 minutes, c'est une race en voie de disparition.
Parfait.
Et il sera à dos de boulonnais, l'ami Charles.
Il faudra en prendre soin, Charles.
Il faudra que le boulonnais prenne soin de Charles.
Mais surtout, le cheval va venir jusqu'ici, jusqu'au stand. Il est assez impressionnant.
Avec les habitants de Boulogne.
Ça fait partie des chevaux les plus grands de France par l'encolure et la taille. Oui, bien sûr.
Et le poids
aussi. Alors, Joël Dagosséry,
Didier Giraud, c'est combien de poids? C'est à peu près le poids.
Si tu convertis en Didier Giraud.
Oui, en Didier Giraud, ça fait quoi?
Ça en fait 5 ou 7.
Dans les 2-0.
Ça fait plus que ça, ouais. Avec Charles Consigny, on continue de discuter avec vous au 32-16, bien sûr, de ces les élections municipales. Demain, nous serons à Lyon, je le rappelle, justement, pour évoquer l'enjeu du scrutin. Nous serons au Palais de la Bourse, 20 rue de la Bourse, puisque les grandes gueules sont allées à Marseille la semaine dernière. Demain, nous serons à Lyon et lundi prochain, nous serons à Nice. Ces élections municipales, enjeu national ou enjeu local, Nicolas est avec nous. Peut-être qu'on le retrouvera demain à Lyon. Bonjour Nicolas, notre ami sapeur-pompier.
Salut,
bienvenue
Gilles,
Nicolas.
Comment ça va?
Ça va Nicolas? Peut-être ouais. Que tu viendras nous voir à Lyon demain.
Évidemment, évidemment, je serai là. J'ai répondu tout de suite dès que j'ai vu que vous veniez direct. Donc la place est réservée, je serai là, je viendrai vous voir. Pas de problème.
Bah, ça donnera l'occasion de se revoir. Nicolas, alors, exactement. Enjeu national ou municipal?
On va vous voir aussi ce soir quand vous arrivez, si vous arrivez en avance. Hein, on est à la caserne, on est de garde jusqu'à demain matin. Donc vous pouvez venir nous faire un coup, il n'y a pas de souci.
Ça peut faire une balade, qui sait. Alors enjeu national ou local?
Ah, moi, enjeu national, j'y crois pas, parce que la plupart du temps, alors surtout dans le milieu rural, on vote pour des maires qui sont pas forcément avec une étiquette, et puis on vote plutôt pour une personne, et plus pour un programme, on est content de lui, donc on veut le relancer. Par contre, au niveau des grandes villes, je me disais peut-être un enjeu national, mais au final, quand on fait le point des dernières élections, on a plusieurs villes qui ont basculé aux mains des écologistes et pour autant, au niveau national, on n'a pas tant d'élus écologistes que ça. Donc je suis pas sûr que ça soit vraiment un reflet national. Je pense plutôt que c'est un enjeu local et c'est encore une des élections qui est un petit peu préservée du taux d'abstention, je pense, parce que les gens ont l'impression de voter pour quelque chose qui va leur être utile, réellement. Quoi.
Oui, c'est mon avis. Justement, ce que Nicolas, c'est il vote pour quelqu'un et pas pour quelque chose.
Exactement, voilà. Mais c'est ce que je revendique un peu de
temps. Non, il vote pour quelqu'un qui fasse quelque
comme
chose.
Ça, au niveau national, qu'on vote pour des vrais programmes ou des vrais... qu'on vote vraiment pour des idées et non pas pour des partis, quoi. Voilà. On s'enferme dans des partis et on est obligé de créer des alliances et je trouve ça dommage. Alors qu'au niveau municipal, enfin, pour les élections municipales, je pense que ça, on le retrouve moins, on le ressent moins, il y a moins d'alliances, il y a moins de magouilles et on est moins obligé de faire des compromis.
Et vous votez. Voilà. Mais justement, sûr, Nicolas, prenons un exemple concret, sans donner les enjeux du, les personnalités de votre scrutin, parce que sinon, comme on dit, on ouvre la liste et les temps de parole. Vous votez où? À Cublize, c'est ça?
Ouais, moi je vote à Cublize, dans le plus beau village du monde, c'est ça.
Mais justement, Cublize, quels sont les enjeux? Non, mais Cublize, quels sont les enjeux?
C'est que des sapins soient bien entretenus et c'est que la petite auberge réouvre, quoi. Hein.
Voilà, exactement. C'est plus le commerce de proximité, c'est le maintien de tous les services qu'on a sur place. Voilà, déjà qu'il y a beaucoup de choses qui ferment dans le rural. Didier peut en parler, je pense. Donc c'est essayer de maintenir une vie et un lien social et actif sur la ville, quoi, sur le village, quoi.
Nicolas, merci d'avoir été avec nous et je vous dis à bientôt dans les GG, dans les Grandes Gueules et demain on se retrouvera en direct de Lyon. Mais tu vois, je regardais un article la semaine dernière, il y a certains des électeurs qui sont paumés aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils se disent « je vote » pour mon maire, mais je sais pas si c'est lui qui a le pouvoir ou si c'est la communauté de communes ou si c'est la métropole. Parce que là encore, on a complexifié, ça c'est typiquement français, on a complexifié avec les communautés de communes, avec les agglos, avec les métropoles, et même maintenant t'as les métropoles qui disent, ouais mais c'est pas de notre compétence parce que maintenant c'est la région. Donc alors que le maire avance, comme on disait, c'était l'élu à portée de bave, c'est-à-dire ça allait pas au coin de ta rue, c'est monsieur le maire.
Tu sais qu'à Lyon, tu crois pas si bien dire, même dans les petits villages ruraux,
chez toi dans le Jura, par exemple,
certaines, par exemple, chez moi dans le Jura, il y a certaines routes du village qui, pour une raison mystérieuse, relèvent de la compétence de la communauté de communes. Donc, tu as une route qui est abîmée. Tu vas te plaindre auprès du maire. Le maire te dit, je suis désolé, c'est la communauté de communes.
Oui, mais c'est aussi le fait qu'il n'y a plus de moyens et il n'y a plus de pouvoir dans les.
Parce qu'on les a enlevés.
On a rajouté
des strates.
Les échelons supra-municipaux, à mon sens, l'agglomération, la métropole, etc., ne servent à rien.
À Lyon, par exemple, on va voter trois fois. Tu auras une urne pour le conseiller, pour le maire d'arrondissement, une autre pour le maire de Lyon et une troisième pour la métropole. Il faut trois bulletins.
Cédric va en parler avec nous. Cédric nous appelle de Haute-Savoie. Bonjour Cédric.
Bonjour les GG.
Bienvenue Cédric. Alors, enjeu national ou enjeu local, ces élections, dites-moi?
Je dirais que pour les grandes villes, on a vraiment l'impression que ça devient plus un enjeu effectivement national. Les tout petits villages, on pense que c'est peut-être encore très ancré localement, mais je prends l'exemple de la Haute-Savoie où on a de plus en plus de villages intermédiaires. On se demande un petit peu aujourd'hui effectivement quel est le rôle réellement des maires et quel est leur impact. Vous parliez des communautés de communes. Si on prend le cas d'Annecy par exemple, Aujourd'hui, il y a la grande agglo Annecy qui regroupe 34 communes. Et si on regarde, par exemple, le plan d'occupation des sols, la zone d'artificialisation des sols, pardon, la construction de nouvelles écoles, de nouvelles gendarmeries ou autres, c'est plus du tout les maires qui aujourd'hui prennent les décisions, c'est cette grande communauté d'agglo. Donc en fait, on vole localement pour un maire, mais on n'est pas sûr réellement qu'il nous représente d'un point de vue local.
Mais alors dans ce cas-là,
dans
la
communauté d'agglo, le seul élu qui siège, c'est le maire et un adjoint suivant le nombre d'habitants. Hein. Les places.
Oui, mais c'est pas forcément ton maire.
Ah si.
Bah non, mais c'est pas celui forcément qui aura le plus de pouvoir dans la décision
finale. Alors après,
le tout,
c'est d'avoir du pouvoir. Et, voilà. Et ce que nous décrit l'auditeur, c'est quand même une problématique quand dans une communauté, qu'elle soit d'agglo ou rurale d'ailleurs, il y a une grande ville qui domine. Ça, c'est un vrai problème. Mais pour en revenir sur le fondement,
il fallait supprimer des strates.
Non, mais pour en revenir sur le fondement de ces communautés, elles sont d'abord créées par des petites communes qui n'ont plus les moyens d'assumer, seules
l'assainissement,
qui n'ont plus seules les moyens d'assumer l'évacuation des déchets et à un moment donné, les ordures ménagères et à un moment donné, le regroupement de ces communes, c'est aussi une façon de mutualiser, quoi.
Hein. Oui, d'accord, mais dans ce cas-là, il fallait.
Y a une grande ville qui domine.
Oui, mais dans ce cas-là, il fallait supprimer des strates. C'est-à-dire que, on rajoute des choses, mais on n'ose pas parce qu'on ne veut pas supprimer. Alors, on est quand même le seul pays en Europe à avoir autant de communes et à avoir autant de maires. Hein. Il n'y a aucun autre pays qui a ça. Bon, c'est parce que chacun veut avoir son petit maire. Bon, très bien. Hein. Mais le problème, c'est que derrière, on s'est dit c'est pas suffisant, donc on crée une strate supplémentaire, mais on supprime pas celle qui est en dessous. Et on s'y retrouve plus. Mais bon, la métropole, c'est pareil. Moi, je pense qu'on devrait voter à l'échelle Paris. On devrait plus voter à l'échelle de Paris. On devrait voter à l'échelle de Paris, de sa proche banlieue, puisque maintenant on voit bien que tous les problèmes sont liés. Ah bien non. Donc on a un président de métropole que personne ne connaît et on a un maire.
Attendez, Cédric, je voulais revenir vers vous. Vous sentez une mobilisation, pour le prochain scrutin ou un désintéressement?
Pour voir les communes qui sont un peu autour de chez nous, il y a pas énormément de listes par commune. Hein. C'est deux listes maximum, voire j'ai appris que certains maires démissionnaient, ils se représentaient pas. Donc c'est.
Il n'y a pas de liste.
Pour reprendre un peu cet aspect d'Annecy, par exemple, aujourd'hui, c'est eux qui décident quelle commune va pouvoir faire des immeubles, construire, et quelle commune ne peut plus construire. Donc, quelque part, vous pouvez être contre éventuellement un projet, mais si la communauté de communes d'Annecy a décidé qu'il y aurait des nouveaux lotissements ou des nouveaux immeubles qui se font, quelque part, vous n'avez pas votre mot à dire. Donc, en fait, on a l'impression qu'aujourd'hui, je comprends le point de vue de Didier, mais quand on a une grande ville qui pilote tout ça, ça peut être les petites communes qui ont décidé de se regrouper. Selon de où vous êtes, votre impact et votre poids, il est négatif. Ou il est négligeable en tout cas.
Cédric, je voudrais que de la Haute-Savoie, on aille dans l'Aube, retrouver Jean-Christophe qui est viticulteur. Il est à Champignol et Mondeville. Bonjour Jean-Christophe.
Bonjour Gégé.
Bienvenue. Vous sentez de la mobilisation vers chez vous ou pas pour l'enjeu local ou un enjeu national, dites-moi.
Moi, je suis assez d'accord avec les autres auditeurs. C'est plutôt un enjeu local quand on est sur les petites communes. Peut-être un enjeu national sur les plus grands. Mais nous, les petites communes, avec le nouveau mode de scrutin, surtout, ce que je remarque, c'est que nous, par exemple, il ne devait y avoir qu'une liste de notre commune. Les gens, si en fait, ils viennent pas voter, c'est pareil, parce que la liste, elle va passer, quoi, en fait. Donc, je pense que les gens vont être un peu démotivés à cause du nouveau mode de scrutin, que je trouve totalement aberrant pour des petites communes. De faire qu'une seule liste.
On n'en a pas assez parlé, mais la réforme du mode de scrutin en milieu rural, ça change beaucoup de choses. Ouais.
C'est une aberration. Parce qu'en fait, avant, on avait une liste ouverte. Je vois la dernière fois, il y a 6 ans, on était 17 sur la liste pour 11 places. Au moins, les gens faisaient leur conseil municipal comme bon leur semblait.
En fait, on rayait les noms.
Là, maintenant, on n'est que 11. En fait, ils n'ont pas le choix de nous prendre, nous, en fait. Je trouve ça un peu un délit de démocratie, à force, quoi, cette façon de voter pour les nouvelles municipales. Là. C'est ça qui est dommage.
Et Jean-Christophe, je vous remercie d'avoir été avec nous. Vous avez conclu la discussion, on a posé la question. Alors, enjeu local ou enjeu national, ces élections municipales, on va voir ce que vous en dites, justement. C'est national à 52%. On est, voilà.
C'est assez serré.
C'est assez serré.
Une petite chose à vous annoncer, n'oubliez pas les vacances grâce à Bellambra. Hein, vous pouvez encore partir en vacances cette semaine avec les GG, avec les grandes gueules, à la mer, à la montagne, à la campagne. Le séjour à la mer, vous pourrez partir en Corse, du côté de la montagne à Tignes, du côté de la campagne dans le Verdon. Vous choisissez, mais vous envoyez vacances par SMS au 732-16. Vacances par SMS au 732-16. Tirage au sort tout à l'heure à 11h20. Un gagnant, une gagnante. C'est un séjour all-inclusive, c'est-à-dire premium et tout compris. Vous serez au petit soin avec Bellambra. Donc à vous de jouer, à vous de gagner. Dans un instant, on va s'intéresser à ce qui se passe du côté de Bruxelles. Vous savez ce qu'on a fait à Bruxelles? Je vous jure que c'est vrai, hein. On a augmenté de 50% le budget des jets privés pour les dirigeants. Alors, c'est avec votre pognon, hein, riez pas, hein, c'est avec votre pognon, puisque de toute façon, Bruxelles est financée par les États. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous propose de venir en discuter. Allez, 10 minutes au 32-16 et restez bien avec les grandes gueules en direct du Salon de l'Agriculture et de la région des Hauts-de-France, puisque le cheval de Charles arrive. Est en train d'arriver.
Charles va courir le prix d'Amérique.
Tout à l'heure, à 10h50, les amis, il sera... Regarde, il est là, ton canasson, tu l'aperçois là, à la télé? Il est magnifique sur un boulonnet tout blanc. Il n'y aura qu'à suivre ton panache, mon cher Charles.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story, les grandes gueules surtout en direct du stand de la région des Hauts-de-France, ici au Hall 7. Nous sommes au Salon de l'Agriculture, nous y serons aujourd'hui, nous y serons jeudi et vendredi. Entre-temps, on aura fait un petit saut à Lyon demain, place de la Bourse, pour parler des élections municipales. On compte sur vous, les Lyonnais. Demain, nous y serons avec Barbara Lefebvre, Bruno Poncet et Emmanuel Devilliers au Palais de la Bourse, 20 rue de la Bourse. Mais là, ici, au Salon de l'Agriculture, au stand des Hauts-de-France, on attend avec impatience le destrier pour l'ami Charles. Il va arriver dans 8 minutes, 9 minutes. Le boulonnais, un magnifique cheval
très
blanc.
Beau, hein. Tout blanc.
Charles Consigny va chevaucher le destrier, puis on parlera de la disparition de la race boulonnais avec la propriétaire. En attendant, je propose qu'on s'intéresse à un autre moyen de transport, les jets privés.
Ça, c'est de la transition. Ça, c'est de la transition.
Les jets privés à Bruxelles, on en raffole, puisqu'on a augmenté de 50% le budget alloué à la location des jets privés.
Oui, et c'est un document qu'a récupéré nos confrères de Politico. Selon ce document, l'Union européenne prévoit de consacrer jusqu'à 16 millions d'euros sur 4 ans au déplacement en jet privé de ses plus hauts responsables. C'est un montant en hausse de 50% par rapport à la période précédente. Alors la Commission justifie cette forte augmentation par un contexte géopolitique instable et pour des raisons de sécurité. En fait, ça va bénéficier donc à la Commission européenne, mais aussi au Parlement, au Conseil de l'Europe, au Service européen pour l'action extérieure. Et c'est tous les gens qui ne peuvent pas prendre les vols commerciaux. On nous dit que c'est pour des raisons de sécurité, de contraintes, d'agenda ou de déplacement urgent vers des zones sensibles. Et donc, il faut ces jets privés. Est-ce que, selon vous, c'est justifié d'accorder effectivement cet avantage payé sur fonds européens, donc c'est-à-dire c'est nos impôts, hein, l'Europe est financée par les impôts de tous ses membres. Est-ce que c'est justifié que Mme von der Leyen et les autres puissent se déplacer rapidement en jet privé dans un monde instable?
Et Joël ?
Non mais, alors là, je comprends pas. C'est-à-dire que tous les jours, l'Europe nous bassine avec des normes supplémentaires en matière écologique.
C'est vrai.
Voilà, des taxes carbone.
Et de restrictions budgétaires.
Exactement. Il faut faire 10 000 vérifications avant de pouvoir utiliser la moindre chose, notamment pour les agriculteurs. Mais là, par contre, pépouze, on se lance dans plus 50% de dépenses sur les jets privés. Enfin, il y a un moment, il faut quand même être assez cohérent et incarner la politique qu'on soutient. Là, je comprends absolument pas.
C'est la fête, ce que je dis, mais
la déconnexion, elle est totale. Elle est totale. C'est-à-dire qu'en plus, moi, française lambda, j'ai aucun moyen de savoir si vraiment c'est réellement utile dans le cadre des déplacements d'augmenter les déplacements en jet privé. Ils sont tellement loin de nous, tu vois, tellement loin, et je parle pas que géographiquement, parce que Bruxelles, c'est pas si loin, mais tellement loin dans leur mission, tellement loin, éloigné des préoccupations des Européens, qu'on ne sait même pas pourquoi ils s'augmentent comme ça. Ça se décide comme ça. Ah ben, on a besoin de plus de sécurité, mais plus 50%. On n'est pas à plus 3%, plus, on a plus 50%. Ouais. Donc, je veux bien que le monde soit instable et qu'effectivement, voilà, il y a des guerres par-ci, par-là, mais plus 50% par rapport à ce qui s'est fait l'année dernière. Enfin, je trouve ça beaucoup.
Didier. Moi, ce qui me choque le plus, je suis d'accord avec toi, Joël, c'est le chiffre, quoi. De considérer que les grands dirigeants européens peuvent avoir recours au jet plutôt qu'à un vol commercial, déjà en soi c'est un principe qui me froisse un peu, parce que je crois que l'abolition des privilèges c'était il y a plus de 200 ans, mais je peux l'entendre, allez, je peux l'entendre, mais dans le chiffre, quoi, quand on s'augmente un privilège, on ne se l'augmente pas de 5, 10, 20%. On se l'augmente de 50%. On double la somme. Moi, je.
Ça semble-t-il parce qu'il y a trop de monde qui va en bénéficier. Il faudrait réduire.
On raconte des conneries aux gens là-dessus. Moi, je suis persuadé qu'il y en a qui s'en servent pour aller en vacances. C'est évident. Et tu verras, dans 4 matins, on nous fera encore un grand procès parce que un tel ou un tel a été en vacances avec les jets privés. Parce que ça, l'Europe, ils sont champions du monde, quoi. Hein. Ils sont champions du monde pour aller faire des procès 20 ans après parce que les assistants parlementaires, ils bossaient pas au Parlement européen. Mais en même temps, à l'époque, tout le monde mettait les doigts dans le pot de confiture. Quoi. Tout le monde fonctionnait comme ça. Et tu verras qu'un de ces quatre, il y en a un qui va dénoncer, il y en a peut-être un qui va abuser un peu plus que les autres, ça sera dénoncé, et puis on reviendra à quelque chose de plus rationnel. Mais les sommes. Enfin, d'ailleurs, on n'a pas la somme. On n'a pas la somme.
16 millions.
On a...
Si, 16 millions.
16 millions d'euros.
Le budget, c'est 16 millions.
Non, mais tu te rends compte, doubler 16 millions d'euros, c'est de la folie.
Charles.
Moi, je pense, soi-disant, ces jets serviraient à aller dans des zones qui ne seraient pas desservies par des vols commerciaux, ou alors effectivement dans des délais rapides, ou pour des déplacements très sensibles, etc. Je pense que la réalité, malheureusement, c'est que ces gens, d'abord, se croient très importants, se pensent vraiment très très importants, et ensuite ont une des goûts de luxe et la folie des grandeurs. Un commissaire européen, il est rémunéré quasi 30 000 euros par mois, 30 000 euros qui sont exemptés d'impôts, puisque les fonctionnaires internationaux, dont les fonctionnaires européens, et je trouve que c'est totalement anormal, ne payent pas d'impôts. En plus de curieux. Cela... Il est véhiculé, on les voit parfois dans Paris, à bord d'une rutilante BMW avec chauffeur, le modèle le plus cher, comme un vulgaire dictateur d'un pays dictatorial. Et pour tout ça, qu'est-ce qu'on a ? On a des gens qui souvent sont quand même pas le haut du panier. Je pense notamment à Madame von der Leyen, qui quand même a fait la preuve et l'étendue de sa médiocrité crasse quand elle s'est fait humilier comme une petite fille par Trump dans le bureau de Trump aux États-Unis et qu'elle lui a vendu à peu de frais la souveraineté européenne. Donc moi, payer des jets privés à Madame von der Leyen pour qu'elle ridiculise l'Europe dans les grandes capitales où elle passe, honnêtement, je trouve pas ça très intéressant. Je pense que ces gens peuvent parfaitement prendre des avions de ligne.
Voir des trains.
Et je les ai invités.
Quand c'est possible.
Voir des trains, évidemment. D'autant que, effectivement, comme l'a dit Joël, l'Europe a quand même pour spécialité d'emmerder les Européens le plus possible au nom de l'écologie.
Mon cher Charles, tu vas nous quitter.
Ouais.
Et je te propose.
J'espère que ça n'est pas définitif.
Non.
Tu vas nous quitter.
Tu vas vivre une belle aventure.
Pour rejoindre ta monture, s'il te plaît, parce que tu vas aller essayer un boulonnais. Le temps pour nous, le temps que tu y ailles.
Je trouve
vas-y,
que.
Vas-y, tu
cette infidélité aux chevaux comtois te sera reprochée. Et
le temps de prendre Brice avec nous en direct au 3216. Brice, qui est conducteur de TER, qui est dans la Meuse. Bonjour, Brice.
Ouais, salut à tous.
Allez, bah, le petit coup de gueule contre les.
Je voulais faire un petit bonjour déjà à nos agriculteurs, hein, parce que les pauvres, actuellement, c'est compliqué, donc les encourage quand même à tenir bon, parce que, voilà. Et là, mes collègues, forcément, ils vous écoutent beaucoup, parce que chaque fois, on me dit qu'on m'entend, alors, donc, je leur passe le bonjour. Ouais.
Alors, Brice, conducteur de train, coup de gueule rapide, là, contre les jets.
Ouais, on se fout de notre gueule, quoi. Parce que nous, faudrait qu'on aille en véhicule électrique, à pied, en vélo, et puis eux, ils vont se payer des jets sur notre dos. Ah mais c'est vraiment une déconnexion, mais au plus haut niveau. Mais je sais pas ce qu'on leur apprend dans les écoles, et je sais pas ce qu'ils ont dans la tête, et je sais pas ce qu'ils cherchent. Parce que là, franchement, à quel moment on va continuer, quoi.
Mais justement, Brice. Brice, c'est honteux.
Je vois tout le monde qui prend le train parce que c'est pas bien la voiture. Et eux vont prendre des jets privés parce qu'ils peuvent pas se mélanger à la population locale.
Non, mais c'est à peu près ça, oui.
Honteux, Brice, c'est ce qui est... Ouais, on se fout de la gueule de qui. Vous avez résumé la pensée générale. Brice, je vous remercie d'avoir été quelques instants avec nous dans les GG. Bonne journée, Brice.
Charles se prépare à monter sur ce cheval.
Et alors, on est avec Élodie Vandera, qui est éleveuse de Boulonnais et chargée de mission des éleveurs de Hauts-de-France. Bonjour Élodie, merci d'être avec nous.
Bonjour.
Qu'est-ce qui va se passer là? On regarde ensemble les images. C'est juste dehors. Est-ce
que vous
à côté
avez un lève-palette pour poser Charles sur le dos du cheval?
Quelle est la particularité du boulonnais alors?
Alors le cheval boulonnais, c'est une des 9 races de chevaux de trait françaises. Et il est originaire des Hauts-de-France, donc de notre région. On l'appelle le colosse de marbre blanc ou le pur sang des chevaux de trait. C'est un cheval aux allures actives, brillantes, extrêmement polyvalent. C'est idéal de la course qui va être montée. Il faut savoir qu'idéal avec...
Il est très grand, non?
Bon, c'est un cheval boulonnais.
À l'encolure, c'est combien?
Au garrot, je ne sais pas, là, on est à 1m65, 1m70.
D'accord. Ça y est, Charles est dessus.
Charles est à cheval. Magnifique. Et du coup, il faut dire, c'était un cheval qui...
Attendez, parce qu'il a un micro, Charles.
C'est un cheval qui servait à transporter...
Attendez, parce qu'on a Charles en direct. Oui, très bien, raconte tout ce qui se passe.
Eh bien, mes chers amis, il y a quelques années, un jeune banquier impétueux lançait le mouvement En Marche et il n'a rien redémarré du tout. Je pense qu'aujourd'hui est venu le temps de remettre la France à cheval, de revenir à la France profonde. Et donc, je dis à tous les Français qui nous regardent et nous écoutent, à cheval.
Et au galop,
ça te va très bien. Charles...
Et au galop, comme l'a bien rajouté Didier, ça suffit d'être au pas, là. Et
ça, est-ce que on doit considérer ça comme une candidature officielle, Charles?
Je laisse chacun l'interpréter.
Alors, quelle est la sensation, Charles?
Écoute, ce cheval, je suis assez en confiance. Je trouve qu'il a une très bonne tête. Il a l'air très calme. Il est beau comme tout. Il est effectivement solide.
Mais là, pour l'instant, tu es à l'arrêt. Tu vas. Alors,
est-ce que tu pour l'instant, je suis à l'arrêt, mais je pense que nous allons démarrer la longue marche. Oula.
Vers l'Élysée.
Alors, justement, puisque nous.
Emmanuel, si tu nous entends,
on arrive.
J'arrive. Peux faire tes cartons. On arrive.
Alors, Élodie, quelle est la particularité de ce cheval? Pourquoi est-il en voie de disparition, Élodie?
Alors, la disparition.
Ça lui va bien, Charles.
Est due à la mécanisation. L'arrivée du tracteur. Mais ils ont encore plein d'utilités aujourd'hui. Caroline, là, la propriétaire de ce cheval, par exemple. Alors, elle a importé entre guillemets, des chevaux boulonnais dans la région bordelaise et elle est prestataire de service. Donc, elle va venir travailler dans les vignes avec son cheval, donc ça aura un intérêt pour les sols où on va moins tasser le sol, moins abîmer le sol. Et elle va aussi faire de la collecte de déchets, etc. en ville. Et on est politique, on va le dire entre nous. Si on veut que nos chevaux de trait soient sauvegardés, il faut le remettre au centre de nos vies, que ce soit pour la collecte en ville, le tourisme également. On peut découvrir notre magnifique France agricole rurale grâce à des calèches tirées par nos chevaux de trait. Je pense notamment sur la communauté de communes du Queulier, le Pas-de-Calais, dans les Hauts-de-France, qui font découvrir ce genre de choses avec des chevaux.
Charles, on va avoir un peu ses sensations. Charles, est-ce que tu as la vocation équestre alors finalement?
Écoute, honnêtement, j'ai de la chance parce que je sens que c'est un cheval extrêmement zen et extrêmement habitué, mais je trouve ça très confortable et c'est une sensation, somme toute, agréable et naturelle.
Merci Charles de cet essai et merci à Élodie.
Vive la France.
Et merci à l'éleveuse.
Merci Élodie d'être venue nous parler quelques instants de cette race du boulonnais qu'il faut sauver.
Exactement. Et on a la chance d'être soutenu par la région de France à travers un plan de sauvegarde et de valorisation. Donc on les remercie pour leur soutien. Et on vous donne rendez-vous au Hall 6, stand B011, pour venir nous voir.
Mais le message est passé. Merci. Dans un instant, on va parler politique, on va parler de la région des Hauts-de-France.
Charles va revenir.
On va parler ambition présidentielle, puisqu'on va accueillir Xavier Bertrand, le président de la région des Hauts-de-France, le président LR.
RMC, 9h midi. Les grandes gueules.